mais il n'interdit personne de trouver son bonheur dans les mathématiques. Alors ici, une différence entre Démocrite et Épicure est celle-ci. C'est au sujet du hasard. C'est que chez Démocrite, voyez, si vous considérez les atomes, donc ils sont dans le vide, et ils constituent des chaînes causales, ou bien si vous préférez des chaînes dynamiques, ou plutôt cinétiques, qui sont indépendantes les unes des autres. Et par conséquent, lorsqu'il y a rencontre de ces chaînes causales indépendantes, on a un fait de hasard. Par exemple, un monsieur marche dans la rue, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la météorologie, il reçoit une tuile sur la tête, cette tuile tombe par l'effet du vent, donc par une causalité météorologique. L'enchaînement des motifs qui ont fait que ce monsieur passait dans la rue n'a rien à voir avec l'enchaînement des causes météorologiques. Donc, lorsqu'il reçoit cette tuile sur la tête, c'est par un fâcheux hasard. Voilà. Épicure admet cela, c'est-à-dire qu'il admet qu'il y a des séries causales indépendantes dans la nature. Mais il pense que s'il n'y avait que cela, rien ne se serait créé dans la nature, c'est-à-dire que rien de nouveau ne serait apparu, la nature ne ferait que se répéter elle-même. C'est pourquoi il a ajouté une autre propriété de l'atome qui donne à la nature la propriété de créativité et qui fait que la nature est une sorte de champ d'initiative. Et l'homme fait partie de la nature et l'homme est aussi une puissance d'initiative. Et cette propriété, c'est ce qu'on appelle la déclinaison, c'est-à-dire le clinamen. C'est-à-dire...
Le clinamen qui sera défini en tant que tel plus tard par Lucrèce, précisément.
Vous avez tout à fait raison, oui. D'après un philosophe italien, Bignone, un passage de la lettre à Hérodote serait perdu. Et c'est dans ce passage qu'il était question de ce que Lucrèce appellera clinamen. Je préfère employer le mot latin, puisque Épicure, évidemment, ça serait parenthesis, c'est-à-dire le mot grec.
Et qui signifie donc la déclinaison, cette légère déclinaison, oui. Ou déviation plus exactement, oui, des atomes.
Oui. Alors, cette déclinaison de l'atome, c'est une propriété de spontanéité. Si on ne l'admet pas, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas expliquer. D'abord, on ne peut pas expliquer qu'il y ait eu des mondes, puisque les atomes à ce moment-là ne se seraient pas rencontrés, et on ne peut pas non plus expliquer le libre arbitre humain. Donc, c'est une supposition que d'après eux, il faut faire si l'on veut expliquer un certain nombre de choses dont on a l'expérience. Et comme on a l'expérience du libre arbitre, comme le monde s'offre indiscutablement à nous, alors il faut accorder cette propriété à l'atome. Alors aujourd'hui, des savants comme Prigogine, par exemple, et d'autres, ont vu tout l'intérêt de cette supposition qui rejoint les spéculations et les découvertes aussi de la physique au niveau subquantique, voyez, où on s'aperçoit qu'il y a probablement un désordre fondamental.
Oui, c'est-à-dire que la création du monde, dans cette occurrence, serait vraiment l'œuvre du hasard.
Épicure est opposé au nécessitarisme universel et aussi à la philosophie universelle du destin, et il admet la liberté de l'homme. Et alors, cette liberté est possible parce que l'avenir est encore indéfini, indéterminé pour une large part, de sorte que nous pouvons toujours apporter quelque chose de nouveau. Et par conséquent, en définitive, c'est vrai que, bien sûr, la philosophie d'Épicure n'aurait pas été possible sans celle de Démocrite, mais il ajoute une idée de liberté qui n'était pas présente manifestement dans le système de Démocrite.
Il faut se persuader tout d'abord que la connaissance des phénomènes du ciel n'a d'autre fin que l'ataraxie et une ferme confiance, comme aussi toutes les autres recherches. Il ne faut pas vouloir forcer l'impossible, ni avoir à l'égard de toute chose une théorie semblable au raisonnement sur les genres de vie, ou à ceux concernant la solution des autres phénomènes physiques. Par exemple, que tout est corps et nature intangible, ou que les éléments sont insécables, et toutes les choses du même genre, qui n'ont qu'une seule façon de s'accorder avec les phénomènes, ce qui n'est pas le cas pour les phénomènes du ciel, lesquels, admettent plusieurs causes de leur production et plusieurs déterminations de leur essence en accord avec les sensations. Car il ne faut pas étudier la nature à partir d'axiomes vides et d'actes légiférants, mais comme le réclament les phénomènes. Notre vie, en effet, n'a pas besoin de déraison et d'opinions vides, mais de se dérouler sans trouble.
Alors, en ce qui concerne la science, il est peut-être bon d'insister sur sa théorie des explications multiples, qui montre justement son indifférence vis-à-vis de l'explication scientifique. Parce qu'aujourd'hui, les savants cherchent l'explication scientifique d'un phénomène, l'explication vraie. Mais ils ne se posent pas la question de savoir si on en a besoin pour être heureux. Et la question d'Épicure, c'est vous, savants, dans vos laboratoires, vous, avec vos observations, vos recherches, vous cherchez à progresser indéfiniment vers la vérité au sujet des phénomènes, mais en résultera-t-il un bonheur plus grand pour l'homme ? Pour Épicure, il n'est nullement évident qu'il en résultera un bonheur plus grand, au contraire. C'est pourquoi il faut tout de même...
C'est-à-dire une vision d'un savoir complètement pragmatique, en fait, finalement.
Oui, cette notion de pragmatisme est assez juste. Mais à condition de penser le pragmatisme à la manière grecque, c'est-à-dire en vue de la sagesse et pas en vue de la puissance, de l'efficacité au sens du pragmatisme de William James et de ses auteurs-là. Ça ne veut pas dire que Épicure admette n'importe quelle explication pour un phénomène physique, par exemple l'éclipse. Alors, il y a des explications qu'il faut rejeter, ce sont toutes les explications qui font intervenir les dieux. Parce qu'à partir du moment où les phénomènes météorologiques ou célestes sont compris comme dépendants de la volonté des dieux, étant donné que cette volonté est arbitraire, on ne sait jamais ce qu'ils veulent au juste, à ce moment-là, on vit dans la crainte des dieux. Or, il est essentiel pour le bonheur de mettre de côté, de se libérer de toute crainte, que ce soit la crainte des dieux, de la mort, etc. Et par conséquent, il faut rejeter toutes les explications des phénomènes célestes ou météorologiques ou terrestres qui feraient intervenir un pouvoir divin. Mais, à partir du moment où vous avez une explication qui cadre avec l'explication atomistique, c'est-à-dire mécaniste, c'est-à-dire matérialiste, alors peu importe que vous expliquiez de telle ou telle manière un phénomène. Par exemple, une éclipse de soleil, je peux l'expliquer par l'interposition de la lune, mais je peux aussi supposer que c'est un autre corps opaque, ou bien je peux supposer que le soleil s'éteint, se rallume, etc. Ça n'a pas d'importance. Autrement dit, à partir du moment où c'est une explication qui me montre que les choses se passent de manière entièrement mécanique, c'est-à-dire où il n'y a aucune finalité, aucune providence, où il n'y a qu'une causalité ne signifiant rien, c'est-à-dire que les choses sont ainsi, c'est tout, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher la moindre providence dans l'ordre du monde, tout est le fruit du hasard, et l'homme doit s'en accommoder, et s'il parvient à s'en accommoder, eh bien il a le bonheur, qui est la signification même de la philosophie.
Les atomes se meuvent continuellement durant l'éternité, les uns s'écartant loin les uns des autres, les autres au contraire gardant là même leur vibration, quand ils se trouvent pris dans un enchevêtrement ou enveloppé par des atomes enchevêtrés. Car la nature du vide, qui sépare chaque atome en lui-même, produit cet effet, n'étant pas capable de leur fournir un appui, et la solidité qui leur appartient, dans le choc, produit le rebond, dans la mesure où l'enchevêtrement permet, à la suite du choc, le retour à la position antérieure. Il n'y a pas de commencement à ces mouvements, les atomes étant cause, le vide aussi. Ainsi, il n'est rien qui fasse obstacle à l'infinité des mondes. Car les atomes, étant en nombre infini, comme cela vient d'être démontré, sont emportés même aux distances les plus grandes. Et d'autre part, de tels atomes, desquels pourrait naître un monde, et dont ils pourraient être constitués, ne s'épuisent ni en un seul, ni en un nombre fini de mondes, mais dans tous ceux qui sont tels que celui-ci, ni dans tous ceux qui diffèrent de ces derniers.
C'est fascinant, Marcel Conge, cette vision du monde donc, qui est pétrie d'atomes qui tombent, qui sont dans eux-mêmes lancés dans une sorte de mouvement perpétuel, qui se meuvent dans le vide et qui sont toujours là. En fait, on a l'impression d'une gigantesque matière en mouvement, quelle que soit finalement sa destination, puisque ce sera aussi bien un corps humain qu'un corps animal, qu'un corps végétal, que les montagnes, etc. etc.
Oui,
et c'est une vision du monde.
Cette vision du monde n'est pas tellement extraordinaire, eu égard à ce que nous enseigne aujourd'hui la physique, parce qu'elle nous montre bien aussi une matière en mouvement dans l'univers. La différence, c'est que l'univers de la physique moderne, c'est-à-dire l'univers d'Einstein, correspond à un monde d'Épicure. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'univers d'Einstein a été construit par le savant, mais sur la base de l'expérience, et en définitive de l'expérience sensible. Bien sûr, du calcul, de la mathématique, mais en définitive, c'est un univers expérimentalement vérifié. Tandis que l'univers d'Épicure, c'est une spéculation. Épicure ne conçoit pas la science expérimentale. Il reste un pur philosophe. Il juge inutile de chercher à vérifier son système par ce qu'on appellera plus tard des expériences cruciales. Ces expériences, il les conçoit, c'est tout. Aujourd'hui, Épicure dirait aux physiciens, votre univers, celui d'Einstein, correspond à ce que j'appelle un monde, pouvez-vous dire qu'au-delà de cet univers, il n'y a pas d'autres univers ou mondes à l'infini ? Le physicien, naturellement, dirait que cela tombe en dehors de l'expérience possible, que c'est une pure spéculation, et Épicure dirait que c'est ainsi qu'il l'entend, mais qu'il ne peut être réfuté. Au sujet de l'atome, il faut bien voir que l'atome épicurien est différent de l'atome du physicien, en ceci que l'atome d'Épicure est un principe. Nous mettons en lui un certain nombre de caractères, la simplicité, l'insécabilité, l'éternité, etc., que nous posons tout simplement pour pouvoir expliquer tout ce que nous voulons expliquer à partir de lui. Tandis que pour le physicien moderne, l'atome est infiniment riche, c'est-à-dire on en apprend toujours sur l'atome. Par conséquent, ce n'est pas un principe, c'est plutôt un objet de l'étude du physicien. C'est-à-dire, on découvre en lui le proton, le neutron, l'électron, ensuite les quarks, etc. Et on n'en finit pas. Il est infiniment riche. Tandis que l'atome d'Épicure a la pauvreté des principes. Mais dans les principes, il faut mettre le moins possible pour expliquer le plus possible. Et puis, la grande différence, c'est que Épicure est philosophe. Par conséquent, il veut rendre compte de la totalité des choses. Tandis que le savant n'a pas à se soucier de la totalité des choses. Il se soucie des phénomènes qui tombent sous l'expérience, que ce soit l'observation sensible ou bien l'expérience de laboratoire. Et à cet égard, il y a une grande différence.
Oui, le savant contemporain cherche quand même à rendre compte de la totalité du monde aussi, enfin, du moins de l'ensemble des explications possibles.
Oui, mais il ne sait pas si ce qu'il appelle le monde, c'est la totalité des choses. Comment pourrait-il affirmer qu'il n'y a rien d'autre, rien de plus, que ce qu'il appelle le monde ? Il se peut qu'il y ait Dieu, ou bien il se peut qu'il y ait un univers à n'en plus finir. Le savant moderne ne peut pas éliminer l'hypothèse Dieu. Ce n'est pas du tout son projet, son rôle. Tandis que, étant donné que Épicure est philosophe, il prend une position au sujet de la façon de concevoir la totalité des choses, et donc, étant matérialiste, il écarte l'hypothèse Dieu, l'hypothèse monothéiste, et aussi l'hypothèse polythéiste pour autant que les dieux seraient compris comme ayant un rapport avec les hommes, agiraient dans le monde humain, sur la terre, etc., puisqu'au contraire, il les conçoit comme n'ayant rien à voir avec les affaires humaines.
C'était Le bonheur selon Épicure par Pascal Lismonde avec la participation de Marcel Conche, texte lu par Jacques Lenoble, réalisation Arlette Dave. Demain, vérité et simulacre.